Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être ici présents. Merci également à la municipalité de Saint-Herblain et merci au personnel de la bibliothèque. Je pense notamment à Marion qui m'a accompagné aujourd'hui, qui a été mon ange gardien, à tel point que par moments je me suis presque senti important. Je me disais que VIP pouvait dire « very important piquette ». Merci également à Bernard Bretonnière, qui est à l'origine, je crois, de cette invitation. Tout à l'origine, c'est vrai que j'avais l'intention de lire les extraits de deux pièces, qui d'autre est cité Funambule. Et puis, en préparant cette rencontre, je me suis aperçu que c'était une grossière erreur, qu'à savoir que je vous aurais donné des petits bouts de quelque chose, que j'aurais perdu tout à la fois le sens et le rythme dramatique des deux pièces, et que vous en seriez sorti sans avoir véritablement une idée de ce qu'était ce théâtre et l'une et l'autre des deux pièces. Donc, en plus, l'une des pièces est assez longue, donc j'ai décidé de concentrer cette lecture sur Cité Funambule, qui est une pièce qui doit durer. Je dis doit durer parce qu'elle n'a pas été jouée, mais elle a été donnée en lecture 1h45 minimum. Rassurez-vous, je respecterai le temps qui m'est imparti. Donc, Cité Funambule. Pour cette pièce, j'ai obtenu une aide à la création de la part du CNL. J'ai pu bénéficier d'une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, où j'ai pu terminer ce texte dans de bonnes conditions. Ce même texte a été sélectionné au Festival des écritures contemporaines de Strasbourg en 2009, je crois, et sur tapuscrit. Sélectionné également pour le programme Lire le théâtre, c'était une opération pilotée par le Centre national dramatique de Nancy, et finalement a été nominé pour le prix Charles Brisset, qui lui a échappé, à mon grand désespoir. C'est une pièce divisée en quatre actes qui, chacun, correspond à une saison de l'année. Et on commence par le printemps. Sept personnages, dont le guide. Homme ou femme, les six autres personnages sont les visiteurs qui accompagnent le guide, mais chacun de ces autres personnages incarne au moins un autre personnage, parmi lesquels les plus importants, le gérant général de la cité Funambule et la femme de ménage. Les autres personnages sont les résidents de la cité Funambule. Il y en a un certain nombre, puisque cette pièce est également une galerie de portraits. De manière générale, le guide s'adresse autant au public qu'aux visiteurs. Les indications scéniques que je vous donnerai sont uniquement pour vous faciliter la compréhension du texte. Il est bien évident que là, c'est le travail du metteur en scène et je ne me permettrai pas d'intervenir. Mais ces indications sont nécessaires pour une lecture. Avant de commencer, je vais vous lire la note qui est écrite en bas de page, en tout petit, comme sur les polices d'assurance. C'est une note de l'auteur. Et l'auteur dit ceci. « Ne me demandez pas ce qu'est la cité Funambule, je n'en sais plus rien. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un lieu où l'on enfermait des funambules qui, au cours de leur numéro, seraient tombés sur la tête. Je me demande aujourd'hui s'il ne s'agit pas plutôt de la représentation microcosmique d'un monde qui aurait perdu la raison. » Acte 1, printemps, le guide et les visiteurs sont sur scène. Le guide. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cité Funambule. Nous avons pour nous une vraie journée de printemps et la visite n'en sera que plus intéressante. Une fois franchies les barrières de sécurité, je vous demanderai de rester groupés. Non que vous encouriez quelques dangers, mais l'endroit est vaste et l'on s'y perd aisément. Pas de questions ? Dernier point. J'en vois certains qui ont apporté appareils photo et caméras. Croyez-moi, ça ne vaut pas la peine. Il y a ici quelque chose dans l'air qui fait que toutes les images sont floues. Et maintenant, suivez le guide. Guide et visiteurs franchissent les barrières de sécurité. Les visiteurs font corps et ont l'air inquiets. Le guide. Avant d'aller plus loin, il me semble important, mesdames et messieurs, que vous vous représentiez l'endroit dans sa globalité. Une vue aérienne vous le montrerait comme un vaste parc arboré avec ici et là sept pavillons de vie reconnaissables à leur architecture en L. Les voyez-vous ? La cité funambule, mesdames et messieurs, héberge certains de nos semblables, de tous âges et de tous milieux, qui ont en commun d'avoir un jour chuté. Son implantation sur un plateau n'est pas fortuite. Le ciel y est plus présent, l'air plus vif, et cela peut les aider à se remettre debout. D'ailleurs, vous en verrez sûrement quelques-uns déambuler dans le grand parc en s'essayant à garder le nez au vent et le regard haut, comme pour retrouver les sensations perdues du temps d'avant. Arrive un homme dans leur direction qui marche nez au vent et le regard haut. Le guide, vous voyez, il suffisait d'en parler. L'homme, bonjour messieurs, dames et bienvenue à la cité funambule. En tant que gérant général, GG comme on m'appelle ici, je ne puis qu'attirer votre attention sur les richesses de ce parc. 60 hectares, 286 essences différentes, vous m'avez bien entendu, 286 rapporté des cinq continents et savamment répertorié par le vicomte du Plessis, jadis propriétaire des lieux. Et vous comprendrez bien que, malgré les innombrables tâches qui incombent à ma fonction, il ne s'écoule pas un jour sans que j'aille ici et là les contempler. Mais je ne veux pas vous influencer. Allez où bon vous semble, profitez pleinement de cette vraie journée de printemps et, pour toute question, pour tout souci, rappelez-vous, GG. Il s'éloigne sous le regard étonné du guide et des visiteurs. Le guide, un nouveau sans doute ? En tout cas, je ne l'avais jamais vu auparavant. Bon, où en étais-je ? Un visiteur, les pavillons, disiez-vous. Le guide, ah oui, les pavillons. Autre singularité de la cité funambule, car ceux-ci, mesdames et messieurs, au nombre de sept, portent chacun le nom d'une étoile. Toujours ce souci du ciel, voyez-vous, toujours cette incitation à regarder plus haut, plus loin, à se remettre debout, à reprendre le fil de son histoire. Comme vous le constatez, il y a quelque chose d'éminemment poétique dans ce choix, d'autant que le personnel a pris l'habitude de dire qu'il travaille sur plutôt que dans tel ou tel pavillon. Pour les blessés aussi, la poésie est présente, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Ainsi, quand l'un d'eux se perd dans le parc, il lui suffit de dire qu'il est d'Achernar, ou d'Assalé, de Fomalo ou d'Hérakis, pour qu'aussitôt on l'y ramène. À défaut, si l'égaré n'a plus l'usage de la parole ni mémoire de rien, on aura pris soin de le doter d'un bracelet de reconnaissance sur lequel, outre son propre prénom, figure le nom de son pavillon. De ce fait, mesdames et messieurs, et certains d'entre vous apprécieront, les blessés de la cité funambule sont désignés par un pseudonyme à particules. Ainsi, aurons-nous peut-être la chance de rencontrer ce jour Jacques de Fercade, Marie de Bételgeuse, Yann d'Achernar et qui sait, Arthur de Sirius. Une femme portant seau et balai arrive dans la direction du groupe. Le guide l'interpelle au passage. « Madame, s'il vous plaît, avez-vous quelques instants à nous consacrer ? Ces messieurs-dames aimeraient vous poser deux ou trois questions. » La femme de ménage. Des questions ? Bah, c'est l'heure de la pause, un visiteur. D'où êtes-vous, madame ? La femme de ménage. En voilà une curiosité. En plus, ça m'étonnerait que vous connaissiez. C'est un petit bled au milieu de nulle part, même pas sur les cartes routières. Rire parmi les visiteurs. Le guide. Excusez-nous, monsieur vous demandait en fait de quel pavillon vous êtes ? La femme de ménage. Ah bon, faut vous comprendre. En ce moment, bon, je suis sur trois par roulement. Je fais les sanitaires sur Sirius et Assalé et le réfectoire sur Bételgeuse. Un visiteur. Alors, vous ne résidez pas à la cité ? La femme de ménage. Non, je ne suis pas funambule, si c'est ce que vous insinuez. Encore que... On l'est tous un petit peu, si vous voulez, par là. Mais pas tous au même niveau. Et comme toute petite, on disait déjà qu'avec moi, ça volait pas très haut. Cela dit, j'ai quand même fait le voyage jusqu'ici, du milieu de nulle part, au bord du monde, sans escale. Bon, c'est pas le tout, j'ai raté ma pause à parler comme ça. un visiteur. Une dernière chose. Savez-vous où nous pourrions rencontrer la femme de ménage ? Sous l'abribus, là-bas, il y en a toujours deux ou trois. Le guide et les visiteurs la regardent s'éloigner, puis reprennent à marcher dans la direction indiquée. Ils arrivent près d'une sorte de petit local vitré sur trois côtés qui ressemble effectivement à un abribus. À l'intérieur, assis sur un banc, deux hommes et une femme, cigarette aux lèvres. Le guide. Bonjour, messieurs, dames, belle journée de printemps, n'est-ce pas ? Les trois marmonnent en même temps quelque chose d'incompréhensible. Un visiteur. C'est un bus que vous attendez comme ça ? Même réponse. Un autre visiteur. Forcément, ça ne doit pas être évident pour le chauffeur, hein, vu qu'il n'y a ni rue ni route. Les trois se mettent à rire, puis se poussent du coude. Finalement, c'est la femme qui prend la parole. C'est pas un bus qu'on attend, c'est le temps. Et pas besoin de rue ni de route pour qu'il passe. L'homme 1. Il arrête pas. En fait, il arrête pas de passer le temps. L'homme 2. Tant mieux. Plus vite en mars, plus vite au bal de fin d'hiver. Le guide et les visiteurs s'éloignent et disparaissent en coulisses. L'homme 1. Ça y est, parti. L'homme 2. Pourquoi tu l'auras pas dit ? La femme dit quoi ? L'homme 2. Ben que c'était pas un abribus, mais un espace fumeur. L'homme 1. Et qu'on attendait, qu'on voulait juste en griller une ? La femme. Je sais pas, pour rire. Silence. L'homme 2. J'aimerais partir loin. La femme. Partir loin n'a pas de sens si loin n'a pas de nom. L'homme 2. Partir loin n'a pas de sens si loin. Oh, j'en ai marre, je rentre. La femme. Moi aussi. Tous deux se lèvent, s'éloignent, disparaissent. Après un temps, l'homme 1, Yann Dachernard, se lève à son tour et commence à marcher de long en large sur la Seine. J'aurais pu leur dire, car c'est ce qu'ils voulaient, vous, pareil, ce que vous voulez, des histoires. Et la mienne en vaut une autre, non ? La mienne, je m'appelle Yann Dachernard. Yann Dachernard. Achernard. Étoile, constellation, je ne sais plus, bleu, blanche, on m'a dit, et très brillante, très, 144 années-lumière de la Terre environ. Ça fait beaucoup. Même environ. Yann Dachernard. Yann Dachernard. Alors qu'il répète son nom, un couple sort des coulisses et vient se placer de part et d'autre de lui. L'homme. Moi qui ne suis pas son père, précisons-le, je conduisais ma voiture, un modèle en vogue à l'époque, je n'ai plus souvenir de la marque, mais qu'importe, grise en tout cas. Assise à l'arrière, sa mère ne disait pas grand-chose et lui encore moins, comme dans un état second, l'air ahuri. La radio comblait les silences avec des airs entêtants. La mère. Une fois franchie la barrière de sécurité, nous sommes sortis de la voiture, je le tenais fermement au bras de peur que l'homme. Tu veux que je t'aide, chérie, la mère ? Non, merci. Allez, viens, Yann, viens. Bureau des admissions, guichet, vitre de protection, l'employé. Ils sont entrés l'un après l'autre, lui d'abord, qu'elle tenait par le bras, et tout de suite il s'est approché, a posé son menton sur le guichet, juste à bonne hauteur pour lui, et m'a regardé fixement. Je lui ai souri, comme j'aurais souri à n'importe qui, c'était encore un enfant, du moins si jeune. Et c'est alors qu'il a crié « Baiser !» Oui, comme ça, « Baiser !» Sans que je sache trop, d'abord, enfin, quoi dire, quel sens donner. Puis il s'est hissé sur la pointe des pieds, a tendu le cou, écrasé ses lèvres sur ma vitre. La mère, « Yann, s'il te plaît !» Elle le prend aux épaules pour le tirer en arrière, il résiste, tous deux manquent de tomber, puis il lui échappe, se jette tête première contre la vitre et s'écroule assommé. Yann ! L'homme. J'ai suivi l'ambulance dans mon auto grise. Sa mère était avec lui. La radio diffusait les nouvelles du monde. Guerre au Vietnam, génocide au Burundi, bande à Bahader décapitée. Après, Nous l'avons laissé. Nous sommes partis. Le couple s'éloigne. Bureau des admissions, guichet, vitre de protection, l'employé. Je regardais l'empreinte de ses lèvres sur ma vitre et le mot « baiser » me résonnait dans la tête avec un bruit de succion comme en produit la mer quand elle reflue des anfractuosités d'un rocher. La mer réapparaît. Je t'avais dit que je reviendrais et je suis revenu. La semaine suivante, puis toutes celles qui ont suivi, pendant des mois et des mois, selon un rituel immuable, qui me voyait descendre de la voiture grise juste devant ton pavillon, puis, une heure plus tard, rarement davantage, repartir à pied jusqu'à la barrière de sécurité, en suivant toujours le même itinéraire, qu'il vente ou pleuve, que le froid fût vif ou la chaleur écrasante, comme si chaque allée empruntée représentait un palier de décompression dont j'avais besoin avant de retrouver l'air libre et l'homme qui m'attendait là-bas, dans son auto grise. Après un bref entretien avec le personnel de la cité, je te retrouvais dans le jardin clos de grillage qui jouxte ton pavillon, ou, lorsque le temps l'exigeait vraiment, dans la salle d'accueil prévue à cet effet. Bonjour, Yann. On m'a dit que tu me réclames souvent, que tu m'appelles parfois dans ton sommeil, qu'à certains moments, tu récites des bribes de ces comptines que je t'ai apprises. Mais dis-moi, au moins es-tu bien ici? Te sens-tu mieux? Tu ne semblais même pas m'entendre, comme si tu étais ailleurs, très loin. Yann d'Achernard, 144 années, lumière, environ. La mer. Alors, il m'arrivait de parler seul, de tout, de rien, de réciter, de fredonner ce qui me venait. Et à certains moments, il me semblait que tu m'écoutais avec plus d'attention, que tes lèvres même s'entr'ouvraient en rythme, que quelque chose enfin aurait pu se passer, un pas de côté qui nous aurait rapprochés, une main tendue, un regard. Mais l'instant d'après, je te sentais de nouveau indifférent, absorbé dans tes jeux et tes dessins, ou bien comme en suspens dans le vide, loin de moi, loin de tout, absent au monde. Yann d'Achernard, même environ, ça fait beaucoup. L'homme réapparaît. Après quoi, les visites de sa mère se sont espacées et résumées à une brève promenade dans le parc. Je la déposais toujours devant le pavillon, mais restais maintenant en stationnement à quelques dizaines de mètres. Si ma mémoire est bonne, j'avais alors une nouvelle auto, grise toujours, un bon modèle. Assis au volant, je les voyais sortir, puis s'éloigner toujours dans la même direction. Au retour, ils avaient cueilli des fleurs ou ramassé des feuilles mortes et des marrons. Une fois dans la voiture, elle n'en disait rien. On mettait ça dans un sac en plastique. Il n'y avait rien à dire. On jetait tout sitôt rentré. Rien d'autre. La mer, c'est au cours d'un hiver froid que nous avons cessé de venir. Ni toi ni personne, sans doute, ne s'en est aperçu. La cité funambule vivait repliée sur elle-même. L'homme, avec la neige, c'est même pas sûr que ma nouvelle auto aurait pu y accéder. La mer, à aucun moment, sans doute, tu ne m'as réclamé. Yann d'Achernard. Depuis le temps que je voyage, depuis le temps que seul. La mer. Après l'hiver, sans doute a-t-on pensé que j'étais morte, l'homme ou parti ailleurs. Yann d'Achernard. Seul dans une galaxie qui, désormais à moi, seul. Le couple s'éloigne bras dessus, bras dessous. Yann commence à tourner sur lui-même. La mère. 30 ans ont passé. L'homme. 30 ans déjà. Yann d'Achernard. Seul dans l'infini. Seul, infiniment seul. La femme de l'abribus apparaît en fond de scène, fouille longuement le décor du regard avant de repérer qui elle cherche. Yann, Yann, viens vite, c'est l'heure du goûter. Yann arrête de tourner, lui fait signe de la main. Escale, biscuit, chocolat, jus, pomme orange, café, poudre, gobelet, cuillère, plastique, touille, touille, escale, touille, tu trembles, goûter, touille, tout le monde descend. J'arrive, j'arrive. Puis il la rejoint d'une démarche mal assurée de funambule, bras en balancier. Fin de l'acte 1. Acte 2, été. Le gérant général entre sur scène comme précédemment, nez au vent et regard haut. Il porte une veste verte, s'adresse aux arbres avec un lyrisme quelque peu grandiloquent. Dire que je vous aime serait peu dire, vous m'êtes essentiel. Pas un jour sans que je vous admire, Cédru, Cédjenko, Salix et Betula. Pas un jour sans que je trouve auprès de vous, Sorbus et Populus, la force de continuer. Tout ce vers, voyez-vous, apaise mon âme et me donne espoir. Point n'est besoin pour moi de m'y mettre, au vers, j'entends, quand j'y suis tous les jours. Tandis qu'il parle, la femme de ménage apparaît et s'approche de lui à son insu. Pourtant, le vers n'eut pas toujours bonne réputation. Savez-vous, par exemple, qu'au Moyen-Âge, on en habillait les fous ? Savez-vous qu'aujourd'hui encore, au prétexte de quelques superstitions, certains gens de théâtre refusent de porter des vêtements verts ? La femme de ménage. Vous parlez tout seul, monsieur le gérant général ? Il sursaute. Appelez-moi Gégé, s'il vous plaît, Gégé. Eh bien non, madame, je ne parlais pas seul, mais à tout cela qui nous entoure, à ces frères immobiles, comme les désigne le poète, à ces êtres des deux mondes, pareil à l'homme, voyez-vous, la femme de ménage, et à la femme, le gérant général. Vous ne croyez pas si bien dire, car le mot arbre à son origine latine était du genre féminin. La femme de ménage, une arbre ? Oh, ça fait drôle quand même, le gérant général. Question d'habitude, madame. Et puisque nous sommes dans le sujet, puis-je vous demander ce que vous pensez du vert ? La femme de ménage, prenant le temps de le regarder. Ça vous va bien au teint ? Le gérant général, merci, mais là n'est pas la question. Que représente le vert pour vous ? Comment le voyez-vous ? Apparaissent le guide et les visiteurs. La femme de ménage, bon, voilà du monde, je vous laisse. Au revoir, monsieur le gérant général. Le gérant général, Gégé, appelez-moi Gégé. Le guide. Bonjour, monsieur le gérant général. Je disais justement à ces messieurs dames que par cette belle journée d'été, il serait bien étonnant qu'on ne vous rencontre pas dans les allées du parc. À ce propos, d'ailleurs, je leur ai parlé du vicomte Duplessis et de sa fabuleuse collecte d'arbres à travers le monde. Je leur ai dit aussi, le gérant général, eh bien, si vous leur avez tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne visite. Le guide. Nous nous rendons au pavillon à Salais pour y voir un certain monsieur Quentin. Sans doute le connaissez-vous, le gérant général. De nom, oui, bien sûr. Mais vous savez, la cité funambule abrite 286 résidents. Vous m'avez bien entendu, 286. Alors, les connaître tous, le guide. Oui, bien sûr, eh bien, nous y allons. À une autre fois, monsieur le gérant général. Le gérant général. Oui, c'est ça, Gégé. À une autre fois, Gégé. Après la scène où l'on voit Quentin d'Assalet et la femme en blanc, guide et visiteurs reviennent et passent devant l'abribus. Un homme et une femme sont assis sur le banc et fument. La femme porte des lunettes noires. Le guide. Bonjour, vous attendez un bus à passer, je suppose. Comme aucun des deux ne lui répond, il hausse les épaules et fait signe aux visiteurs de le suivre. Ils s'éloignent et disparaissent. La femme. Pourquoi il a demandé ça ? L'homme, je sais pas. La femme, d'abord, c'était qui celui-là ? L'homme, bah, je sais pas. La femme, je sais pas, je sais pas. Tu sais jamais rien. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, hein ? Qu'est-ce que t'as dans la tête ? L'homme, je sais pas. Il tire une dernière bouffée de sa cigarette, puis se lève et s'en va en traînant des pieds. La femme, Te fâche pas. Je disais ça comme ça. Allez, te fâche pas. Tu reviendras me chercher pour le goûter, dis. Hein. Tu m'oublies pas, hein. Pas comme l'autre fois. L'autre ne répond pas, s'éloigne, disparaît. La femme, Mado Derakis, termine aussi sa cigarette, puis soupire profondément. Avant, on m'appelait Mado la Tipote. Aujourd'hui, c'est Mado Derakis. J'étais quelqu'un, je suis de quelque part. Je bossais à l'imprimerie au bout de la rue. Je vis désormais à 30 années-lumière de chez vous. Ah ça, on peut dire que j'ai fait du chemin, dans tous les sens, sauf dans le bon. Et tout ça, parce qu'un jour, j'ai crevé le soleil. Alors forcément, n'y voyant plus clair, je suis tombé. Je vous dis pas le gadin, je vous dis pas. Elle se lève, ôte ses lunettes noires. Cela dit, il l'avait bien cherché. Trop longtemps qu'il me narguait au sortir du boulot. À 14 ans, sitôt réglé, quand j'ai commencé comme apprenti, je le trouvais beau, presque magique dans sa parure orange. Et puis, au fil des années, j'ai bien vu que lui, il ne changeait pas. Quand moi, je me creusais, devenais terne et moche, et puis l'encre et l'ammoniaque, au lieu de sentir la cocotte et la violette. Alors, j'en ai éprouvé une sorte de rancœur à son égard. La première fois que j'ai menacé de le crever, c'est quand mon mari est parti. Je lui en veux pas. À mon mari, c'est dire, faut le comprendre. Creuse, terne, moche, grognote l'encre et l'ammoniaque, et stérile par-dessus le marché. Stérile. Pourtant, il s'est encore écoulé plusieurs années avant que je passe à l'acte. C'est l'annonce du dépôt de bilan qui a fait déborder le vase. Le dernier soir, quand j'ai compris que plus jamais je ne franchirais les grilles de l'imprimerie, de mon imprimerie, là où j'avais perdu mes rondeurs et mes couleurs, j'ai regardé le bouffi en face et je lui ai dit, toi, cette fois je te crève. Tu m'entends, je te crève. À l'atelier, j'avais piqué 2-3 souvenirs. Une esperluette et l'infini en bas de casse. Le M de Mado en garamonde 36 et un poinçon bien affûté. Je marchais d'un bon pas. J'étais décidé. J'avais l'outil bien en main. Apparaît en fond de scène l'homme qui était avec Mado sous l'abribus. L'homme, déconne pas, Mado, fais pas ça. Tais-toi, arrête de me suivre. L'homme, tu me reconnais pas, Mado, je viens te chercher. Fallait pas me plaquer pour commencer. L'homme, et puis j'ai la réponse à ta question, Mado. Voilà, dans ma tête, eh bien, il n'y a peut-être rien. Mais ça siffle, vois-tu, jour et nuit, ça siffle, comme ça, oui. Mado Derakis, tais-toi et arrête de me suivre. L'homme, et puis c'est pas tout, Madou. Je t'ai pas dit, c'est pas tout. J'ai l'impression qu'il me manque un morceau de moi, que j'ai plus mes pieds. Alors je sais pas si ça siffle dans ma tête à cause de ça, parce que le vent rentrerait par en bas et pourrait plus ressortir. T'en penses quoi, Mado ? Tais-toi et arrête de me suivre. T'en penses quoi, Adi ? Il se précipite vers elle, veut la doubler. Elle le frappe dans le dos, il s'écroule à terre. Le sifflement s'éloigne, puis meurt. Mado Derakis. Il n'aurait pas dû se mettre entre nous. J'avais le soleil dans les yeux. Je l'ai crevé. Après, c'est clair, il faisait nuit. Elle remet ses lunettes noires. Mais je dis n'importe quoi. S'il faisait nuit, ça pouvait pas être clair. En tout cas, la chute était au bout de la rue. Je vous dis pas le gadin. Faramineux. L'homme se relève, vient se placer près d'elle, lui prend la main qu'il pose sur son épaule. Allez, viens, Mado, viens. Sinon, on va être en retard pour le goûter. Il s'éloigne en funambule. Fin de l'acte 2. Acte 3, automne. Le sifflement entendu un moment plus tôt reprend et se précise comme étant celui du vent. Le guide et les visiteurs entrent sur scène, tout échevelé. Le guide. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cité Funambule. Nous avons pour nous une vraie journée d'automne et la visite n'en sera que plus intéressante. Une fois franchies les barrières de sécurité, je vous demanderai de rester groupés. Non que vous encouriez quelques dangers, mais l'endroit est vaste et l'on s'y perd aisément. Pas de questions ? Le guide et le groupe à sa suite se mettent en marche et disparaissent bientôt en coulisses. À la voix du guide s'éloignant, se mêlent aussitôt celles de la femme de ménage et d'un homme, Jacques de Fercade, qui entre par le côté opposé. La femme de ménage. « Non, monsieur Jacques, je vous crois pas. C'est comme le coup descendre l'autre fois, vous me faites marcher. » Jacques de Fercade. « Je vous jure que non. Ça s'est vraiment passé. Et en plus, pas très loin d'ici. Tenez, asseyez-vous quelques minutes, que je poursuive. » La femme de ménage. « Bah, c'est l'heure de la pause. » Jacques de Fercade. « Raison de plus. » Elle s'assoit. Donc, je vous disais qu'il a piqué un grand landau d'enfant et qu'il a sillonné la ville en s'arrêtant dans toutes les librairies, toutes les maisons de la presse, chez tous les bouquinistes. Ça a duré comme ça 3 jours et 2 nuits. 3 jours et 2 nuits au bout desquels notre homme avait rempli son landau à ras-bord. Et de quoi, je vous demande ? La femme de ménage, ben, de livres ! Jacques de Fercade, oui, de livres, bien sûr, de livres. Mais pas n'importe lesquels. Les siens, ceux qu'il avait écrits. Ce qu'il est supposé, soit qu'il en avait écrit un certain nombre, soit qu'il n'en avait pas vendu beaucoup. Ben, qu'importe, il en avait un plein chargement et c'est ça qui compte. Maintenant, imaginez, madame, que nous étions en automne comme aujourd'hui, que la nuit allait bientôt tomber, qu'un petit vent aigre soufflait dans les rues. Imaginez aussi que le fleuve qui traverse la ville était sombre et les quais déserts. Qu'allait-il se passer, hein ? Faites un effort d'imagination. Que pouvait-il se passer ? La femme de ménage. Oh, je suis désolé, monsieur Jacques, mais là, j'ai plus le temps. Ma pause est finie et il me reste à faire tous les sanitaires sur Bételgeuse. Elle commence à marcher lentement. Il la suit tout en parlant. Jacques de Fercade. D'accord, d'accord. Pour vous, j'abrège la fin. Donc, il est là, à l'extrême bord du quai, juste sous un réverbère, son landau chargé à côté de lui. Et il jette ses livres dans le fleuve. Il jette ses livres dans le fleuve après en avoir lu quelques lignes au hasard. Hop, hop. Mais voilà qu'au bout d'un moment, 2 agents de police arrivent et veulent dresser procès verbal pour tapage nocturne et jet d'immondices dans le fleuve. La femme de ménage. Là, vous inventez, monsieur Jacques. Jacques de Fercade, peut-être. Mais n'empêche que vous vous êtes arrêté pour m'écouter. La femme de ménage. Bah, c'est normal. Même si je sais que c'est pas vrai, j'ai quand même envie de connaître la fin. Jacques de Fercade. La fin. Parlons-en. La fin. En entendant les mots tapage et immondice, son sang n'a fait qu'un tour. Il a flanqué son poing sur le nez du premier agent et son pied dans les parties du deuxième, à moins que ce ne fût le contraire, mais qu'importe. Puis, il a poussé le landau dans le fleuve et s'est laissé entraîner à sa suite. Après, il y a eu des cris et puis, un coup de feu. La femme de ménage. Comment ça, un coup de feu ? Jacques de Fercade, je ne sais pas. C'était juste avant que ses livres l'entraînent vers le feu, vers le fond. Un coup de feu, oui, comme ça. En même temps qu'il imite le bruit, on entend une vraie détonation. La femme de ménage pousse un cri et s'enfuit en courant. Apparaît le gérant général, échevelé et énervé, un pistolet dans une main, un oiseau mort dans l'autre. Le gérant général, c'est à peine croyable. Quasiment sous ma fenêtre. Que dis-je, sous mon nez, ce volatile était en train de ravager consciencieusement l'écorce d'un Cedrus atlantica pyramidalis. Alors j'ai vu rouge. Pas dans mes habitudes pourtant, mais là, fallait sévir et vite. Automatique, 8 mm à grenaille, voilà le résultat. Il brandit l'oiseau en direction de Jacques de Fercade. Jacques de Fercade, Dryocopus martius, communément appelé pique noir, une espèce assez peu répandue dans la région. Le gérant général. Parce que vous vous y connaissez en oiseaux, vous ? Jacques de Fercade. Il m'arrivait d'en mettre dans mes livres. Le gérant général. Ah, c'est vous l'écrivain. C'est comment votre nom déjà ? Jacques de Fercade. Ici, c'est Jacques de Fercade. Mais je n'écris plus d'histoire aujourd'hui. J'en raconte. Le gérant général. Ça a au moins le mérite d'économiser le papier. Quoi qu'il en soit, monsieur Jacques, si le cas se reproduit, je ferai appel à vous. Peut-être aurez-vous une solution plus pacifique à me proposer. En attendant, je vous l'offre. Tenez ! Il lui flanque l'oiseau dans les mains, puis tourne les talons. Juste avant de sortir de scène, il croise le guide et les visiteurs échevelés comme lui. Le gérant général. Vous avez vu vos têtes ? On dirait des fous ! Le guide et les visiteurs le suivent des yeux interloqués. Jacques de Fercade, en regardant l'oiseau. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Arthur. Arthur de Sirius, la plus brillante. Le guide. Que se passe-t-il ? Nous avons entendu une détonation. Un visiteur. En plus, le gérant général n'avait pas l'air dans son état normal. Jacques de Fercade. Il y a de quoi ? Ce Dryocopus martius vient d'être frappé en plein vol par une poussière d'étoiles. Vous vous rendez compte ? Une poussière d'étoiles. Un visiteur. C'est affreux. Un autre visiteur. Comme quoi on n'est jamais à l'abri du danger. Le guide. Mesdames et messieurs, devant la gravité du phénomène, et comme il me semble inutile de prendre des risques, je vous propose d'écourter notre visite. Suivez-moi, s'il vous plaît, nous allons couper au plus court à travers le parc. Il s'éloigne à pas rapide. Jacques de Fercade, en regardant l'oiseau. C'est un tort que de ne pas envisager le pire. La chute serait peut-être moins dure. Et après, pour reprendre son envol, il jette l'oiseau en l'air, celui-ci retombe. C'est pas facile. Pas facile du tout. Entre un homme élégamment vêtu qui traverse la scène lentement. Jacques de Fercade. Pardon, monsieur, vous n'avez pas entendu un coup de feu ? L'homme. Depuis le temps que ça fait rage là-haut. Depuis le temps que ça fait rage. Depuis le temps. Entre une femme, aussi élégamment vêtue, qui traverse la scène. Jacques de Fercade. Pardon, madame, vous n'avez pas entendu un coup de feu ? La femme s'arrête, regarde autour d'elle, semble perdue. Non, je vous jure que non. Je marche dans un tunnel, voyez-vous. Depuis longtemps, je marche dans un tunnel. Au début, j'avais 15 ans. Oh, vous entendez l'écho ? Comme si une autre en moi s'exprimait. Et tout mon corps en résonne à la manière d'une caisse vide. Bon qu'à ça, peut-être, mon corps. Oh. Y a quelqu'un ? Non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a personne. Pourtant, ils sont là. Je les sens. Je les vois. Derrière ces sortes de hublots qui jalonnent mon tunnel, je les vois évoluer. Père et mère funambules, droits sur leurs fils bien tendus. Mais aussi les autres. Camarades de classe, voisins, inconnus, comme vous. Oh. Non, je n'ai rien entendu si c'est là votre question. Jacques de Fercade. C'est curieux car il me semblait la femme, sauf pas plus tard qu'hier, J'avais 16 ans, je m'en souviens comme si la voix de celui qui tapit dans l'ombre, celui qui voulait, celui qui m'a plaqué contre la paroi avant de me plaquer tout court en me lançant dépité. J'aurais dû me douter qu'avec un tel prénom, forcément, on était vierge ou salope. Et que, jour de pas de chance, qu'il a dit, je suis mal tombé. Jacques de Fercade. Ah, parce que vous vous appelez Marie. La femme de Bételgeuse. Marie de Bételgeuse, là-bas, 427 années-lumière de la Terre. Et vous ? Jacques de Fercade. Encore plus loin, au-delà de la chapelle, 480 années-lumière. Marie de Bételgeuse, ça ne veut rien dire. Jacques de Fercade, non, vous avez raison, ça ne veut rien dire. Marie de Bételgeuse, cela dit, puisque vous en parlez, c'est dans la chapelle, justement, que j'ai entendu l'annonce. Car, puisque pas salope, j'étais forcément sainte, n'est-ce pas ? Jacques de Fercade, ça ne veut rien dire. Marie de Bételgeuse, non, vous avez raison, ça ne veut rien dire. En tout cas, je n'ai rien entendu, si c'est là votre question. Elle sort de scène. Jacques de Fercade, c'est curieux. C'est curieux parce que moi, juste avant que mes livres ne m'entraînent vers le fond, je suis sûr d'avoir entendu un coup de feu. Il sort à son tour. La scène reste vide quelques instants, puis apparaît la femme de ménage qui pousse devant elle un large balai. Elle découvre bientôt l'oiseau mort. Ça alors ? Un oiseau crevé dans les toilettes de Sirius ? Il ne manquait plus que ça. Elle regarde autour d'elle, ramasse l'oiseau, le met vite fait dans son seau et sa serpillière par-dessus. Et hop, ni vu, ni connu. Plus d'oiseau, plus de chasseur. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Une journée ordinaire, en somme. Une journée d'automne comme on en rêve, qu'on croirait presque l'hiver improbable. Bras dessus, bras dessous, l'homme et la femme élégamment vêtus traversent la scène devant elle. La femme de ménage. Eh bien, vous êtes rien chic ? La femme. C'est pour le bal de fin d'hiver. L'homme. On essaye nos costumes. Quand ils ont disparu, la femme de ménage se remet au travail en chantonnant. Fin de l'acte 3. Acte 4, hiver. Assise sous l'abribus face au public, une femme emmitouflée dans son manteau. Violette de Fomalo. Il s'écoule un moment avant qu'elle ne commence à parler, du moins à s'exprimer, car sa parole est inintelligible. La femme de ménage, toujours présente au fond de scène, interrompt son travail pour l'observer. Depuis les coulisses, un homme l'observe pareillement, puis vient s'asseoir à côté d'elle. L'homme. « Ma pauvre Violette, comment voulez-vous qu'il vous comprenne ? On dirait que vous avez de la bouillie dans la bouche. » La femme de ménage, « Qu'est-ce qui lui arrive ?» L'homme, « C'est Violette de Fomalo, le pavillon au fond du parc. » La femme de ménage, « Oui, je sais, je la connais, mais qu'est-ce qui lui arrive ? D'habitude, elle ne dit rien. » L'homme, « Eh bien, faut croire qu'aujourd'hui, la femme de ménage... » C'est peut-être parce que les visiteurs ont fait le grand tour. En général, ils ne vont pas si loin. L'homme, 25 années-lumière quand même, ça fait une trotte. La femme de ménage, c'est pas ce que je voulais dire. L'homme, et vous, Violette, c'est quoi que vous vouliez dire ? Violette de Fomalo se lance dans une longue tirade incompréhensible. La femme de ménage. Bon, ben, je vois rien à ajouter. Hein. Et en plus, j'ai pas fini ma journée, moi. Elle reprend son ménage, puis disparaît. L'homme. Ça va pas, Violette. Faut faire un effort, sinon ça sert à rien. Vous me comprenez? Ça ne sert à rien. Violette se met à pleurer. L'homme. C'est pas ce qui va arranger les choses. On dirait une gargouille, maintenant. Et si je leur traduisais, hein, Violette, si je leur traduisais, ou mieux, si je leur interprétais, qu'en pensez-vous, Violette? Violette la reste inexpressive. Alors, séchez vos larmes et reprenez depuis le début. Lentement, s'il vous plaît, sinon je ne vais pas y arriver. Violette reprend son monologue inintelligible que l'homme commence à interpréter. J'eus 10 ans et je tomba d'une chaise. Bon, ça devrait être tombé. Ah oui, pas assez simple. Je ne vais pas corriger toutes les fautes, sinon on n'y arrivera jamais. Allez, on reprend, Violette. Arrive une femme qui les interrompt. La femme, à quoi vous jouez? L'homme, on ne joue pas, on communique. La femme, je peux communiquer avec vous? Sans attendre la réponse, elle s'assoit à côté de Violette et s'adresse au public en langage des signes. Comme ça, tout le monde comprendra. L'homme, je vous préviens, on ne corrige pas les fautes, sinon... D'accord? Bon, à vous, Violette, à vous. Et cette fois, on ne vous interrompt plus. Mesdames et messieurs, l'histoire de Violette. Violette reprend son monologue, que l'homme et la femme traduisent, l'un en paroles, l'autre en langage des signes. J'eus 10 ans et je tomba d'une chaise de cuisine sur laquelle mon père m'avait juché pour que j'atteigne la réserve de confiture. Juste avant de tomber, je sentis sa main se glisser sous ma jupe et après, Violette a plus voulu parler et s'enferma avec son secret dans la plus haute tour d'un château de contes de fées. Maman dit, c'est normal à mon âge. Elle, pareil, rien d'extraordinaire. La vie continue. La vie continue. La femme. Je voudrais pas dire, mais c'est quand même limite au niveau de la syntaxe, non? L'homme. On s'en fout de la syntaxe, d'accord? On s'en fout. Continuez, Violette, je vous prie. J'eus 11 ans et me rêva princesse aux cheveux si longs qu'ils touchent terre quand je me penche à la fenêtre de ma tour. Un jour, je me disais, un jour, il était une fois, un prince s'en servira comme d'un cordage pour venir délivrer Violette, se glissera dans sa chambre, se cachera derrière la porte et chac, transperce le méchant avec son épée sitôt qu'il entre. Le lendemain, à son retour de garde à l'hôpital où elle travaille, maman le découvre tout baignant dans son sang et pleure un peu, puis l'oublie vite car c'est un méchant homme et la vie continue. La vie continue. La femme. Ça me fait penser à l'histoire de... Comment elle s'appelait déjà? Mélisande. Oui, c'est ça, Péléas et Mélisande. Elle en a sûrement entendu parler, l'homme. Non. La femme. Vous en avez entendu parler, Violette? Mélisande. Péléas et Mélisande. Violette, inexpressive. L'homme. Vous voyez bien. Maintenant, si vous pouviez... Hein? Excusez-nous. Violette, on vous écoute. Violette reprend. L'homme continue d'interpréter. J'eus 12 ans. Et cocha en bleu sur un petit calendrier les nuits où maman travaille. En rouge, les nuits où il vient dans ma chambre, les mêmes, moins quelques-unes. Et c'est facile à deviner quand, à ses regards, pendant le dîner, a quelque chose dans sa voix. Ses premières questions, toujours pour mon travail d'école. Alors, t'as bien travaillé, petite gourmande? Oui, elle a toujours bien travaillé, la petite gourmande. Alors, elle mérite une récompense. qu'il tire de sa poche ou de son portefeuille. Mais attention, silence, hein, motus et bouche cousue. La suite, je sais, toujours pareil. La vie continue. La vie continue. La femme. Ça vous ennuierait de ponctuer de temps en temps? Ah, ne serait-ce qu'un petit point-virgule, parce que là, moi... Enfin, c'est pas parce que je m'adresse à des sourds muets que j'ai pas le droit de m'exprimer à voix haute. C'est vrai, quoi. L'homme. Continuez, Violette. Violette reprend, l'homme interprète. J'eus 13 ans et cessa de croire au conte. Adieu, princesse et mauvaise fée, Violette est renvoyée du collège. Quand maman apprend ça, elle ne rentre plus de l'hôpital. Et Violette fugue pour ne pas rester seule avec lui en pleine nuit. Je saute par la fenêtre, marche longtemps dans les rues, monte dans une voiture qui s'arrête. Et Violette se réveille au matin dans les toilettes d'une aire d'autoroute avec du sang partout et un goût d'alcool dans la bouche. La femme. Et la vie continue ? L'homme. Non. Car après ça, Violette n'eut plus d'âge et sombra dans le vide. La femme. Et ensuite, l'homme. Rien. Ensuite, rien. Depuis son arrivée à la cité funambule, elle rafistole les tresses des bouts de ficelle. Des années que ça dure et toujours rien de solide à se mettre sous le pied. La femme. Et l'avenir, l'homme. Aucun. Dans quelques jours, elle ira au bal de fin d'hiver avec moi. Et nous danserons ensemble, et elle pleurera comme elle pleure à chaque fois. Violette pleure. La femme. C'est malin de dire ça. Et puis vous n'avez pas à parler à sa place. L'homme. Je ne parle pas à sa place. Je suis Violette. La femme. Vous voulez dire que... L'homme. Non, non, non. Je ne veux rien dire. Je suis Violette, c'est tout. Par peur du vide. Je suis Violette par peur du vide. Vous comprenez? Par peur du vide. Maintenant, laissez-nous, s'il vous plaît. La femme, une dernière chose, non. Rien, laissez-nous, s'il vous plaît. Allez-vous-en, partez. Partez. La femme s'éloigne, non sans regarder à plusieurs reprises par-dessus son épaule. Quand elle a disparu, l'homme et Violette se regardent. Un vrai sourire éclaire leur visage. Entre le guide, seul, qui traverse la scène lentement en désignant telle ou telle chose à des visiteurs invisibles. Puis aperçoit le couple. Le guide. Vous attendez le bus, je suppose. L'homme lui répond par un marmonnement incompréhensible comme Violette précédemment. Le guide. Ah bon, on croyait que vous attendiez. Nouveau marmonnement de l'homme, rire nerveux de Violette. Le guide. Parce que il y en a beaucoup qui attendent ici, vous savez. L'homme et Violette se lèvent, tournent le dos au guide et au public, puis s'éloignent, bras dessus, bras dessous. Arrive le guide, puis le gérant général, d'un pas décidé. Le guide. Je pensais à vous, monsieur. Enfin, Gégé, le gérant général. Gégé, oui, Gégé. Ça me fait plaisir que vous m'appeliez ainsi. Depuis le temps, du coup, ma colère s'apaise. Le guide. Que vous arrive-t-il? Le gérant général. Toujours la même chose. Ignorance, manque de respect. Figurez-vous que je viens d'en surprendre une en train de graver un cœur gros comme ça sur le tronc du grand Jinko qui se trouve entre Irakis et Ferkad. Alors je m'approche, la prie de cesser sa maltraitance, lui confisque son arme, un poinçon, vous avouerez, lui demande enfin si elle a conscience que cet arbre souffre. Et là, le pompon. Le pompon. Vous savez ce qu'elle me répond? Vous savez ce qu'elle me répond? Moi aussi, je souffre, monsieur. Moi aussi, je souffre, monsieur. Faut l'entendre pour le croire, non? Le guide, ça me laisse sans voix. Le gérant général, Je suis content de vous l'entendre dire. François ? C'est bien ça, François, n'est-ce pas ? Bon, c'est pas le tout, François. Il y a fête au grand foyer et je dois... On se revoit au printemps, d'accord ? Le Davidia involucrata est superbe, vous verrez. Le Parousia persica aussi. Et le Liriodendron tulipifera, pareil. La vie continue, François. La vie continue. Le guide. La vie continue. Et la visite aussi. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme chaque année à la même époque, la cité funambule donne son bal de fin d'hiver. Et je vous invite à y assister. Si vous voulez bien me suivre, toujours groupé. Inutile de prendre des photos, je vous l'ai dit, elles seront floues. Rappelez-vous, par ailleurs, que notre présence est tolérée dans la mesure où personne ne nous voit ni ne nous entend. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à ne plus être. Et maintenant, que la fête commence. Musique, lumière, le bal de fin d'hiver commence. Deux funambules sont désignés pour reprendre le fil de leur vie. Le gérant général dirige la cérémonie, le guide la commente pour le public. Quand les deux funambules élus ont disparu, là-haut, très loin dans le ciel, les autres continuent de danser. Puis la lumière décroît peu à peu jusqu'au noir et la musique s'arrête. Le guide alors s'avance sur le devant de scène. Mesdames et messieurs, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En pareil moment, la phrase rituelle est « N'oubliez pas le guide ». Mais en l'occurrence, ce n'est pas un pourboire que je commande, mais une place. Juste une petite place dans votre mémoire. Ne m'oubliez pas, mesdames et messieurs, ne m'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus les acteurs de la cité funambule. Yann d'Achernard, Marie de Bételgeuse, Jacques de Fercade, Mado d'Hérakis, Violette de Fomalo. Ne les oubliez pas, ne les oubliez pas. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant, c'est vraiment terminé. Rideau !